Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Classique ce matin. Pascal Perrineau, aviez-vous imaginé qu'en 50 ans d'analyse de la vie politique, d'écoute attentive des discours des présidents de la République, le président d'une des nations signataires du traité de Rome puisse déclarer que l'Europe était mortelle ?
Oui, il y a une grande lucidité d'ailleurs de la part du président de la République. Vous savez, aucune construction politique aussi sophistiquée, fragile en plus de ça qu'est l'Europe, n'est éternelle. La démocratie est mortelle, celle à laquelle nous sommes attachés, l'Europe, qui est une Europe démocratique, est mortelle. Et les menaces sont multiples. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron les a précisées hier, bien sûr, les menaces géopolitiques, le fait qu'il y ait une menace interne, puisque comme il l'a dit de manière très juste, l'Europe ne s'aime plus aujourd'hui. C'est un vrai problème quand les Européens n'aiment plus l'Europe. Or, vous savez, dans les derniers sondages de l'Eurobaromètre, on s'aperçoit que la France est un des pays parmi les 27 qui aiment le moins la construction européenne telle qu'elle est. Et ça, voilà, c'est un élément de fragilité qu'exploitent d'ailleurs beaucoup les forces extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, dont la sensibilité a toujours été dans l'histoire hostile à la construction européenne. Et puis l'Europe n'est pas, faut pas croire, n'est pas très aimée dans le monde. Du côté des États-Unis, elle suscite pas mal d'indifférence et éventuellement d'hostilité. Écoutons par exemple le candidat Trump quand il parle de l'Union européenne. Mais même le président Biden a pris une distance par rapport à l'Union européenne. Et du côté de la Russie, les faits sont là tous les jours pour nous prouver que l'Empire russe considère que, avec l'OTAN certes, mais à côté de l'OTAN, l'Union européenne est véritablement un caillou dans la chaussure russe.
Pascal Perrineau, il y a beaucoup de choses à dire sur ce discours de la Sorbonne. Guillaume Tabar l'a rappelé, près de 2 heures. Mais une première chose, est-ce un discours de chef de parti pour les Européennes ou est-ce autre chose selon vous ?
Non, je crois que c'est autre chose. D'ailleurs, les références nationales, il y en a eu très peu. Dans son discours, il a écorné d'ailleurs de manière un peu subliminale, par exemple Légérie, qui est Monsieur Légérie, qui est candidat sur la liste du Rassemblement National, d'ailleurs sans le nommer. Mais on voyait bien que sa préoccupation était beaucoup plus une préoccupation où il s'adressait en fait à ses collègues des 26 autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, le public était un public où il y avait les ambassadeurs, une délégation de la Commission européenne, des étudiants, des chercheurs. Ça n'était pas à proprement parler un discours de campagne, même si, en effet, ça sera retenu comme un moment fort de la campagne. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, peut-être enfin, on parle d'Europe. C'est-à-dire que ces élections européennes, elles se cherchent, comme beaucoup d'élections européennes d'ailleurs, elles se cherchent entre des préoccupations nationales, où on continue les chicayas nationales, et puis des élections européennes qui devraient être un moment où l'on parle de l'avenir de l'Union européenne. Là, c'est vrai qu'hier, on avait véritablement l'impression que l'on parlait de l'avenir de l'Union européenne, d'une certaine conception, qui est la conception du président de la République. Et en plus de ça, il parlait d'une Europe qui lui tient à cœur, on le voit, c'est dans l'ADN macronien, l'Union européenne. En effet, il dit souvent « je suis et de droite et de gauche ». Et s'il y a une construction politique qui est et de droite et de gauche dans son histoire longue depuis les années 50, c'est bien l'Union européenne qui a été fondée à la fois par des hommes de gauche comme Paul-Henri Spaak et par des hommes de droite ou de la démocratie chrétienne comme Robert Schuman ou Konrad Adenauer. Donc on est bien là au cœur de l'ADN macronien.
Alors, si c'est pas un discours de campagne, il y avait dedans de quoi nourrir la campagne. Vous venez de le dire, il y a des grands thèmes, la défense européenne, la technologie, l'économie, la puissance, la souveraineté, évidemment l'immigration, la défense des frontières. Et curieusement, les oppositions n'ont pas encore saisi les perches tendues. Elles se sont plutôt concentrées sur il faut réintégrer le coût de l'allocation de la Sorbonne, si elle a été louée, ou en tout cas de l'organisation de ce discours. Il faut le réintégrer dans les frais de campagne du candidat Macron. Est-ce que l'opposition est à la hauteur des enjeux ?
Écoutez, là, sans être désagréable, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux et de la nécessité qu'il y a aujourd'hui de décrire un nouvel avenir pour l'Europe. En effet, l'Europe est fragile, L'Europe est mortelle, l'Europe peut se désintégrer, et si on veut la faire revivre, il faut avoir des idées. Et hier, on pouvait les contester sur tel ou tel point, mais il y avait des idées sur l'Europe puissance, l'Europe de l'atome, l'Europe de la géographie, ça c'est intéressant. Le président a bien dit, voilà, l'Europe c'est pas une sorte de magma qui pourrait s'étendre au-delà des frontières que la géographie a données à l'Europe, et il parlait de l'Europe des frontières. Donc à la limite, par rapport au discours, premier discours de la Sorbonne d'il y a 7 ans, c'est un discours plus empreint de préoccupations, plus empreint de pessimisme même, en disant « l'heure est grave ».
Et de pédagogie peut-être.
Et de pédagogie. Et donc, voilà, il s'est efforcé par rapport à cette situation, qui est une situation difficile pour l'Europe, de tracer des portes de sortie et de redonner un peu de peps à l'Union européenne. C'était en particulier très net sur la nécessité aussi d'une Europe de l'innovation qui aujourd'hui est très en retard par rapport aux Chinois, par rapport aux Américains.
Pascal Perrineau, vous êtes un spécialiste de la sociologie électorale, vous avez étudié les cartes, la géographie française, vous savez ce qui fait frémir les lecteurs. Y avait-il dans le discours d'Emmanuel Macron quelque chose qui puisse aller au-delà des homologues européens, des chefs d'État du monde entier, et qui puisse arriver jusqu'à l'oreille de l'auditeur et de l'électeur français et des concitoyens du président, et qui puisse le faire se mobiliser pour cette élection dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, qui vote pour le RN, qui vote pour Renaissance ou pour les écolos, qu'est-ce qui réveille un électeur français sur la question européenne ?
Alors, il est difficile d'abord, dans des élections européennes, de réveiller un électeur français. Aujourd'hui, plus d'un électeur sur deux dit « je resterai chez moi ». Mais enfin, ça, nous sommes à 6 semaines. Des élections, la tension va monter et donc normalement la mobilisation devrait un peu monter, même s'il ne faut pas s'attendre à une participation extrêmement élevée. Cependant, il y a des électeurs à mobiliser. Et là, on voit bien comment le discours d'hier peut mobiliser négativement, c'est-à-dire réveiller un anti-macronisme en disant ce président qui sait tout, qui pérore à la Sorbonne, etc. On voit bien comment l'anti-macronisme ordinaire, j'allais dire, peut s'exprimer et se réveiller, mais il est déjà assez bien réveillé, celui-là. Mais de l'autre côté, je vois quelque chose, à mon avis, qui est plus intéressant. Il y a de nombreux électeurs europhiles qui ont envie qu'on parle d'Europe et qu'on dresse un avenir à l'Europe. Et donc, comme le disait d'ailleurs Emmanuel Macron hier, un avenir à la France. Et là, cet électorat, qui est un électorat plutôt de col blanc, de gens très impliqués dans la vie politique européenne, eh bien, ces gens-là ont peut-être, hier, se sont dit « ça vaut la peine de se déplacer le 9 juin ».
Est-ce qu'il existe un vote utile en matière d'élections européennes ? Vous savez, on parle souvent du vote utile. Au dernier moment, l'électeur se détermine, s'il se dit « qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne ?» Et il redevient, entre guillemets, plus raisonnable. Peut-il y avoir un vote utile européen ? Alors, ce vote utile, il peut être à la droite comme à la gauche. Oui.
Alors, il y a un vote utile qui est la barre des 5%. Quand vous vous dites « je vais voter pour une liste qui aura moins de 5%, c'est un peu, j'allais dire, un vote qui s'évanouit dans les sables, puisque quand on n'a pas atteint la barre de 5% des suffrages exprimés, on ne peut prétendre avoir des eurodéputés. Donc, même au sein de ce scrutin proportionnel, oui, il y a un peu de vote utile, mais beaucoup moins que dans des élections qui distribuent du pouvoir national, comme les élections législatives ou bien sûr l'élection présidentielle.
Pascal Perrineau, vous tendez l'oreille évidemment à ce qui se dit dans les médias, les commentaires, les observateurs, les unes des journaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les médias dessinent tranquillement un Jordan Bardella, candidat tête de liste du Rassemblement National impérial, avançant tranquillement vers la victoire ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est déjà élu et déjà gagnant?
Oui, c'est vrai que quand on écoute pas mal de radio, qu'on ouvre ses journaux, on a l'impression que c'est fait. Ça n'est jamais fait électoralement parlant. Aucune victoire n'est inéluctable. La pole position de Jordan Bardella est probable. Elle n'est pas inéluctable. Et à mon avis, ce qui sera intéressant, c'est d'observer le différentiel entre le premier, mettons Jordan Bardella, et le second. Hein. Et là, aujourd'hui, en effet, il est très important. Est-ce que les listes concurrentes, Raphaël Glucksmann, Madame Valérie Hayer, auront une capacité ou non à réduire cette course à handicap, si je peux me permettre cette comparaison. Donc, pour l'instant, il est trop tôt de dire que c'est une victoire inéluctable. Et d'ailleurs, le candidat qui dirige la liste RN devrait faire attention. Il adopte des positions un peu impériales, refuse tel ou tel débat, laisse entendre qu'il ne se mêlera pas au discours de ses manants que seraient les autres têtes de liste. Attention, on reproche beaucoup parfois le mépris à Emmanuel Macron. On pourra bientôt peut-être reprocher une certaine forme de mépris à Jordan Bardella.
Pascal Perrineau, je m'adresse maintenant au président de l'association des anciens Sciences Po. J'ai rappelé tout à l'heure que vous aviez dirigé pendant des années le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Donc l'établissement, vous le connaissez bien. Que vous inspire l'intervention des CRS hier avec l'évacuation de militants pro-palestiniens? On ne sait pas si c'est des étudiants, s'ils sont étudiants et militants. Certains seraient restés dans l'Institut cette nuit dans une sorte de blocus. Enfin bon, voilà. Ce qui nous renvoie évidemment à ce qui se passe sur les universités américaines et qui se corse dans des proportions bien plus importantes. L'universitaire que vous êtes reconnaît-il les étudiants d'Occident?
Alors, si vous voulez, première remarque, Sciences Po, comme toutes les universités du monde, les universités américaines d'ailleurs, dans lesquelles j'enseigne tous les étés, pendant 2 mois, ont des règles. Des règles pour vivre ensemble, parce qu'on sait que le monde universitaire est un monde extrêmement diversifié. Ces règles, il faut les respecter. Il faut en effet les négocier, ce qu'a fait l'administrateur provisoire de Sciences Po, Jean Bessière. Et quand la négociation n'aboutit pas, il faut trancher. Et donc, que les forces de l'ordre aient demandé à ses étudiants d'évacuer le plus pacifiquement possible des lieux universitaires qui sont faits pour étudier et non pas pour militer, c'était tout à fait normal et ça ne choque pas du tout l'universitaire que je suis. Mais au-delà, il faut rappeler ce qu'est une université. Une université, c'est un lieu de transmission des savoirs. Professeurs et étudiants sont là pour transmettre et recevoir des savoirs. Ça n'est pas un lieu de meeting permanent où, en plus de ça, on s'assoit sur les principes du pluralisme démocratique, du pluralisme des idées. Or là, il faut bien reconnaître que depuis plusieurs semaines, à Sciences Po comme à Columbia University à New York, il y a des attitudes qui ne sont pas du tout pluralistes. Certains étudiants juifs se sentent pas à l'aise dans une communauté. Vous vous rendez compte, dire ça en 2024, qu'un étudiant juif ne se sent pas à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une indignation sélective. Certes, ce qui se passe à Gaza est terrible, mais ce qui s'est passé le 7 octobre aussi a été terrible et c'est l'élément déclencheur. Et là, il y a dans le mouvement actuel de mobilisation de ce comité Palestine, eh bien, il y a beaucoup d'indignation sélective et ça choque l'homme attaché au pluralisme que je suis.
Pascal Perrineau, merci d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous venez de publier Le goût de la politique chez Odile Jacob, avec un point commun avec l'invité d'hier, Michel Vinocq, que vous avez beaucoup apprécié. Vous apprécierez évidemment l'entretien avec Pascal Perrineau. Ce sont 2 livres qui racontent des chemins intellectuels, des passions académiques pour la matière, l'histoire ou la science politique pour Pascal Perrineau. C'est à lire, à offrir à vos enfants, à vos petits-enfants pour leur montrer ce que c'est qu'un parcours professionnel et intellectuel. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno qui nous parle ce matin de Jordan Bardella qui fait campagne en esquivant les questions. Et nos esprits libres aujourd'hui, Jean-Marie Colombani et Sophie Obadia, Radio Classique.